Le journal Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Après les annonces, place à l'explication de texte. Depuis ce matin, le Premier ministre Jean Castex détaille les mesures d'allègement du confinement exposées cette semaine par Emmanuel Macron, tout en demandant aux Français de ne pas baisser la garde.
Depuis le début de cette crise sanitaire, Thomas, le secteur des transports a déjà perdu 4 milliards d'euros cette année.
Oui, pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Thierry Mallet, président de l'Union des transports publics et ferroviaires.
4 nouveaux collégiens ont été mis en examen hier dans l'enquête sur l'assassinat du professeur Samuel Paty.
3 d'entre eux sont soupçonnés d'avoir désigné la victime à l'assaillant devant leur collège de Conflans-Sainte-Honorine. Quant à la 4e personne, il s'agit de la fille de Brahim Chnina, ce parent d'élève à l'origine de la campagne médiatique de dénigrement contre Samuel Paty. À l'étranger, nous irons tout d'abord en Éthiopie, où les autorités fédérales ont ordonné ce matin l'offensive finale contre la région rebelle du Tigré. Et puis en Turquie, c'est aujourd'hui que près d'un demi-million milliers de militaires et civils soupçonnés d'avoir orchestré le putsch manqué de 2016 devaient être fixés sur leur sort. Enfin, à 12h55, Olivia, ce sera bien sûr la grande table des idées.
Une histoire d'héritage et une affaire d'engagement autour de la figure de l'avocate Gisèle Halimi, décédée l'été dernier. Nous allons parler de la cause des femmes, mais aussi des libertés aujourd'hui avec notre invitée, la journaliste Annick Cogent.
Merci et à tout à l'heure. Le rituel est désormais bien rodé. D'abord, l'allocution présidentielle en prime time devant des millions de téléspectateurs pour rassurer en même temps que responsabiliser les Français, charge ensuite aux membres du gouvernement d'assurer le service après-vente. Et c'est ainsi que ce matin, Jean Castex, entouré de 5 de ses ministres, a donc pris soin de préciser les grandes lignes du plan de l'exécutif tout en jugeant prématuré de parler de déconfinement.
La situation s'améliore grâce aux efforts de tous. Mais ces chiffres, pour encourageants qu'ils soient, restent encore fragiles. Les conditions climatiques hivernales et l'approche des vacances de fin d'année sont deux facteurs de risque importants que nous n'avions pas rencontrés au printemps dernier. Nous ne pouvons donc pas baisser la garde. Notre objectif est de permettre un retour par étape à une vie plus normale, de vous permettre de passer les fêtes de fin d'année avec vos proches, tout en limitant au maximum le risque de reprise épidémique.
Alors, on savait déjà que l'allègement du confinement se ferait donc en 3 étapes. Restait toutefois à lever de nombreuses zones de flou s'agissant des mesures de réouverture ou des protocoles qui prévaudront. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour.
Qu'a-t-on appris ce matin, Antoine, sur ce déconfinement progressif qui, rappelons-le, débutera samedi prochain?
Eh bien, on peut déjà retenir la séance d'autosatisfaction très appuyée du Premier ministre. Les mesures ont été les bonnes, elles ont été prises au bon moment et les résultats sont là. Mais Jean Castex a retenu la leçon du déconfinement du printemps. On n'en est pas du tout au retour des jours heureux. Il faut maintenir la pression, faute de quoi on risque de subir une 3e vague et un nouveau confinement. Il y aura donc, vous l'avez dit, 3 étapes de déconfinement. Les 2e et 3e étapes étant conditionnées par le recul de l'épidémie. Le but étant de fixer un cap. Dans ces annonces, il y a les gagnants, les commerçants qui, sous condition, vont pouvoir rouvrir samedi, le monde de la culture, qui, sous condition également, pourra se déconfiner à partir du 15 décembre. Petit recul du gouvernement au sujet des lieux de culte. Ils avaient obtenu la reprise des offices avec une jauge de 30 personnes, une jauge très insuffisante, selon la conférence des évêques de France, qui a fait pression sur le gouvernement pendant 2 jours. On annonçait un possible ajustement qui n'a pas eu lieu, pour le moment en tout cas. On en reste au nombre maximum de 30 fidèles, mais cette jauge pourra évoluer en fonction de la situation sanitaire, probablement à partir du 15 décembre. Et puis, il y a les perdants, les stations de ski qui resteront fermées pendant les vacances de Noël, c'est confirmé, tout comme les restaurants et les bars, pas de réouverture avant le 20 janvier, et enfin et surtout le monde de la nuit, qui lui n'a aucun horizon à moyen terme. Rappelons que les discothèques sont fermées depuis la mi-mars.
Merci Antoine Maret. Au chapitre économique, à présent, là aussi des interrogations subsistaient jusque-là s'agissant d'une possible nouvelle aide aux entreprises, du moins dans certains secteurs particulièrement pénalisés par la crise, comme l'hôtellerie, le tourisme ou l'événementiel. Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
Ce matin, le Premier ministre a confirmé qu'une aide de 15 à 20% du chiffre d'affaires leur sera accordée.
Oui, les commerces qui ne sont pas fermés, effectivement, mais qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser d'au moins 50%, pourront bénéficier de cette aide élargie. Ça concerne effectivement l'événementiel, les hôtels et plus largement le secteur du tourisme, un élément que n'avait pas annoncé mardi soir Emmanuel Macron. On a eu aussi ce matin des précisions sur le protocole sanitaire renforcé, conditions pour ouvrir dès samedi matin les commerces qui avaient dû baisser le rideau. La règle sera désormais un client tous les 8 mètres carrés. Elle s'applique d'ailleurs à tous les commerces, même ceux qui sont restés ouverts. Et puis, des instructions ont aussi été données au préfet pour faciliter les ouvertures le dimanche jusqu'à la fin de l'année. À noter également, les visites immobilières pourront reprendre dès samedi, tout comme les cours de conduite dispensés par les auto-écoles. Enfin, pour les professionnels de la montagne, on en parlait, des discussions vont s'engager pour une indemnisation.
Alors, parmi les membres du gouvernement venus épauler ce matin Jean Castex, se trouvait notamment Elisabeth Borne, la ministre du Travail, qui déjà dans les colonnes des Échos ce matin annonçait alors une aide exceptionnelle pour les travailleurs précaires.
Et là aussi, on a eu des détails. Il s'agit d'une aide de 900 euros par mois pendant 4 mois sur novembre, décembre, janvier et février pour les saisonniers et ceux qui enchaînent habituellement période de travail et de chômage dans l'événementiel ou la restauration, par exemple. Pour en bénéficier, il faudra avoir travaillé au moins 60% du temps en 2019. Une aide qui concernera 400 000 personnes, dont 70 000 jeunes. Pour les jeunes, d'ailleurs, le Premier ministre a fait d'autres annonces. L'État va doubler le budget alloué au CROUS, ces organismes qui versent les prestations sociales universitaires. Et puis 20 000 jobs étudiants seront créés. Leur mission sera de venir en soutien aux étudiants décrocheurs.
Merci Anne-Laure Jumet. Elles ont décidé de se mobiliser pour alerter sur leurs conditions de travail qu'elles estiment très difficiles depuis le début de l'épidémie. Elles, ce sont les infirmières scolaires qui appellent à une journée de mobilisation nationale virtuelle aujourd'hui. Outre le protocole sanitaire en vigueur dans les établissements qu'elles jugent inapplicable, elles estiment que leur sollicitation accrue dans le cadre de l'épidémie se fait désormais au détriment de leur travail d'écoute auprès des élèves dont le mal-être s'exprime par ailleurs de plus en plus. Comme attendu, le moral des ménages s'est nettement dégradé lors de ce mois de novembre marqué par un reconfinement. C'est ce qui ressort des données publiées ce matin par l'INSEE, l'indicateur synthétisant cette confiance a reculé de 4 points pour atteindre son plus bas niveau depuis décembre 2018, soit en pleine crise des gilets jaunes. Autre conséquence liée à cette crise sanitaire, d'un confinement à l'autre, les transports publics doivent s'adapter. Alors c'est le cas notamment avec la réduction des fréquences aux heures creuses, lorsque les métros, trams et autres bus sont désertés. Et puis, qui dit confinement, dit également interdiction des déplacements non essentiels d'une ville à l'autre, un tassement de la fréquentation qui se traduit là encore nécessairement par moins de trains en circulation. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Thierry Mallet, président de l'Union des transports publics et ferroviaires et PDG de l'opérateur de transport Transdev. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Depuis le début de la crise, le secteur des transports a déjà perdu 4 milliards d'euros cette année, des pertes de recettes qui vont bien entendu encore s'alourdir avec ce deuxième confinement. Où en êtes-vous de vos négociations avec l'État à qui vous demandez de vous venir en aide ?
Alors, nous, opérateurs, on est en négociation avec les autorités organisatrices, c'est-à-dire les villes, les régions, qui sont elles-mêmes en négociation avec l'État pour obtenir un plan de soutien. Une première aide a déjà été mise en place pour compenser une partie du versement mobilité, hein, parce que le versement, l'économie du transport, elle repose sur des recettes passagers, mais également sur la contribution des employeurs, le versement mobilité, qui avait été très très réduit lors du premier confinement, moins réduit pendant ce deuxième confinement parce qu'il y avait moins de chômage partiel. Et le gros impact, c'est l'impact effectivement des pertes de recettes, hein, qu'on estime à peu près à 50%. On l'estime à 50% avant effectivement ce deuxième reconfinement, puisqu'on avait connu une période sans quasiment de passagers pendant le premier confinement, entre 5 et 7%. Et comme on avait arrêté le contrôle, il n'y avait plus forcément de vente de billets. Les gens montaient par la porte arrière dans les bus. Donc il n'y avait pas eu de recettes pendant 2 mois. Sorti du confinement, on avait retrouvé 20% de passagers alors que l'offre était remontée très rapidement à 80%. En juin, on était passé à 50% de passagers avec une offre à 100%. À la rentrée, on était passé à 70%. De passagers, et puis fin octobre, on était même à 80%, et on vient de chuter de 20 à 30% de nouveau avec ce reconfinement.
Aujourd'hui, effectivement, avec ce confinement allégé, l'offre de transport est de l'ordre de 30%. C'est beaucoup plus, bien évidemment, que lors du premier confinement qui, lui, rappelons-le, était total. Non, vous voulez corriger peut-être ?
Alors, oui, alors l'offre de transport quasiment aujourd'hui est de 100%. On a un tout petit peu allégé puisqu'on a encore deux points très très marqués le matin et le soir. On est à 70% de la fréquentation. Donc on a allégé en heure creuse et le soir, mais on a gardé le maximum de l'offre. Aujourd'hui, on reste dans une offre qui reste à 80 à 90% de l'offre normale hein, aujourd'hui.
Les transports.
Les 30%. Alors là, vous parlez de transport public. Les 30%, c'est sur le TGV, c'est sur la grande distance. Là, effectivement, on est à une offre de 30%.
Aujourd'hui, les transports publics ou ferroviaires sont source d'inquiétude pour les Français qui ont peur d'être contaminés en les prenant. Est-ce que vous travaillez aujourd'hui à de nouveaux dispositifs pour les désinfecter? Je rappelle que vous êtes également le PDG de l'opérateur de transport Transdev, qui est très implanté à l'étranger. Cette expérience peut-être est source d'inspiration aussi. On sait par exemple que de nouveaux dispositifs comme les rayons ultraviolets sont déjà utilisés en Russie, en Asie.
Alors, on fait des expérimentations avec des rayons ultraviolets en France. Effectivement, une des phases essentielles qui a été mise en place dès le déconfinement, ça a été la désinfection des véhicules. Alors, avec des techniques différentes, des nébulisations, des UV, des techniques qu'on espère être rémanentes pour que l'effet ne soit pas simplement au moment où on applique le produit, mais que ça dure pendant toute la journée, voire pendant plusieurs semaines, ce qui veut dire que si le virus venait à se déposer sur les barres du véhicule, il est tué par les produits qui ont pu être mis en place. Donc effectivement, cette désinfection est un élément clé, mais avec la désinfection, avec le port du masque, avec la mise à disposition de gel hydroalcoolique pour les passagers, on a réussi à faire que les transports publics, de manière générale, représentent un lieu où il y a très très peu de contamination, moins d'1% des clusters, et c'est en France, ont été trouvés par Santé publique France, et on retrouve également ces chiffres aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, où on voit très bien que le transport public, compte tenu du port du masque qui était obligatoire dès le début, des mesures qui ont été mises en place, reste un lieu où la contamination est extrêmement faible.
Alors, ce sont effectivement les chiffres de Santé publique France, là où, en revanche, parfois certains experts de l'autorité sanitaire estiment que ces chiffres sont sous-estimés, que les clusters pourraient représenter en fait 10% des contaminations. Une dernière question, Monsieur Mallet, l'adaptation de la fréquence des transports publics donc au reconfinement peut-elle avoir des conséquences sur l'emploi chez les différents opérateurs?
Alors, pour l'instant, tout le monde, je l'évoquais tout à l'heure, on est vraiment à un niveau de service maximum. On va voir, au moment de ce déconfinement, combien de passagers reviennent avec nous. Si effectivement, de manière durable, on est aux alentours de 70-80%, on va avoir, au-delà du service public, un enjeu économique. Comment est-ce qu'on va fonctionner? Soit on obtient une subvention d'équilibre qui permet de compenser les pertes de recettes, et c'est ce qui est en train de se négocier, par exemple, dans des pays comme les Pays-Bas aujourd'hui. Et donc, dans la durée, on va pouvoir maintenir le niveau d'offre, qui est une offre vraiment essentielle. Soit on va être obligé de l'adapter, et on se prépare à devoir l'adapter en éventuellement utilisant les dispositifs qui ont été mis en place par le gouvernement, comme l'activité partielle de longue durée, qui permettra de réduire l'offre sans devoir licencier, en répartissant entre tous les collaborateurs cet effort, je dirais, pour pouvoir justement continuer d'assurer ce service. Et dès que les passagers reviennent, on pourra remonter l'offre, puisqu'on aura gardé, je dirais, tous les conducteurs, tous les mécaniciens, tous les techniciens à bord.
Merci Thierry Mallet, président de l'Union des transports publics et ferroviaires, d'avoir répondu à notre invitation. On l'a appris ce matin, 4 nouveaux collégiens ont été mis en examen hier dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du professeur Samuel Paty, décapité le 16 octobre dernier après avoir montré des caricatures du prophète Mahomet à ses élèves. Parmi eux, 3 âgés de 13 et 14 ans l'ont été pour complicité d'assassinat terroriste. Les précisions de Florence Turme.
Les juges d'instruction antiterroristes chargés de l'enquête ont demandé le placement en garde à vue des 4 adolescents en début de semaine pour les interroger. 3 d'entre eux se retrouvent effectivement sous le coup d'une mise en examen pour complicité d'assassinat terroriste, soupçonnés d'avoir désigné le professeur à son meurtrier devant leur collège de Conflans-Sainte-Honorine. 2 autres collégiens de 14 et 15 ans ont déjà été mis en examen pour les mêmes faits. Peu après l'assassinat, ils auraient renseigné le terroriste en échange d'une somme d'argent d'environ 300 euros. La 4e quatrième collégienne placée en garde à vue est la fille du parent d'élève à l'origine de la campagne de dénigrement médiatique lancée contre Samuel Paty. Cet homme a été écroué pour complicité ainsi que le militant islamiste qui l'avait soutenu. La jeune fille, elle, a été mise en examen pour dénonciation calomnieuse. C'est sur la foi de son récit que la campagne a pris forme sur les réseaux sociaux. Or, la collégienne n'avait pas assisté au cours où le professeur avait montré des caricatures du prophète. Elle était simplement présente la veille quand il en avait informé ses élèves en amont. Le père et la fille étaient allés déposer plainte au commissariat contre Samuel Paty pour diffusion d'images pornographiques. Ces nouvelles mises en examen portent à 14 le nombre de personnes poursuivies dans le cadre de cette enquête. Les quatre collégiens ont été laissés en liberté sous contrôle judiciaire.
Ouvert lundi dernier dans un bouillonnement médiatique avant d'être aussitôt suspendu en raison de l'état de santé d'un ex-haut magistrat, le procès de Nicolas Sarkozy pour corruption dans l'affaire des écoutes se tiendra-t-il avant la fin de l'année? Le tribunal doit se prononcer d'ici une heure sur la demande de renvoi formulée par l'un des prévenus dans le contexte de l'épidémie de Covid-19. Un faux départ qui ne saurait toutefois faire oublier le caractère totalement inédit de ce procès. Jamais un ex-chef de l'État n'avait été jugé pour corruption sous la Ve République. Seul Jacques Chirac a été jugé et condamné dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris, mais sans jamais avoir comparu devant ses juges. Nicolas Sarkozy, lui, était présent lundi à l'ouverture du procès, bien décidé à faire face à ses obligations. Rappelons que Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir, avec son avocat, tenté de corrompre un haut magistrat en poste à la Cour de cassation pour obtenir des informations à caractère secret. Enfin, précisons que les prémices de toute cette affaire se trouvent en réalité dans un autre dossier judiciaire qui concerne également Nicolas Sarkozy. Les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007 équivalent à l'ancien chef de l'État, une quadruple mise en examen. Le budget du ministère de la Justice pour 2021, actuellement en cours d'adoption par le Parlement, devrait atteindre un peu plus de 8 milliards d'euros, soit une hausse de 8% par rapport à cette année. Alors ce budget devra notamment permettre de développer la justice de proximité. Dans son discours de politique générale, c'était le 15 juillet dernier, Jean Castex en avait fait l'une de ses priorités. Alors voilà que la première brique de cette ambition arrive justement aujourd'hui à l'Assemblée nationale avec une proposition de loi du groupe de centre droit Agir Ensemble, proposition qui a le soutien du gouvernement. Et son objectif, Anne Fauquembert, eh bien, c'est d'accélérer la réponse pénale pour les incivilités et la petite délinquance.
La proposition de loi active deux leviers. Elle élargit les pouvoirs des procureurs en matière d'alternatives aux poursuites. Pour une vitrine cassée ou un tac, par exemple, ces derniers pourront demander à l'auteur des faits de remettre en état le lieu ou les objets qu'il aurait dégradés sans qu'il y ait besoin d'un passage devant le juge du siège. Un texte qui valorise la responsabilisation des individus et dont le but est aussi de raccourcir les délais pour l'exécution des peines de travaux d'intérêt général. Le député Dimitri Houbron est l'auteur de cette proposition de loi.
On a aujourd'hui un délai moyen de 14 mois entre la décision et la mise en application, donc pas acceptable dans le sens où une personne parfois en plus d'un an a bien sûr refait sa vie, parfois a retrouvé une situation sociale, un travail, et on viendrait casser cette dynamique de réinsertion par cette mesure. Et donc l'idée, c'est d'avoir en effet le moindre écart possible, le moindre délai possible entre la décision et la mise en application du travail d'intérêt général. On espère que ces mesures pourront être mises en application très rapidement.
Pour développer ces alternatives aux poursuites, le gouvernement prévoit d'augmenter le nombre de vacations réalisées par des délégués du procureur. Ils sont près de 900 actuellement, souvent des policiers ou des gendarmes à la retraite. Leur fonction permet d'apporter une réponse aux petits délits, parfois directement en sortie de garde à vue.
Et je précise que la proposition de loi du député Agir Ensemble, Dimitri Houbron, devrait être votée par un large spectre politique. Seuls les insoumis devraient a priori s'y opposer. La cérémonie d'hommage national à l'ancien compagnon de la Libération, figure incontournable de l'histoire de France, Daniel Cordier, décédé vendredi dernier à l'âge de 100 ans, débutera cet après-midi dans la cour de l'hôtel des Invalides. L'occasion de célébrer bien évidemment la mémoire de la résistance en même temps qu'un destin exceptionnel. Ancien secrétaire de Jean Moulin, il avait notamment été initié à la peinture par cet autre héros national jusqu'à devenir après la guerre un marchand de tableaux d'art et galeriste réputé. Daniel Cordier, l'artiste et plus encore le collectionneur, c'est un portrait signé Anne Lamotte.
Quand Daniel Cordier rencontre Jean Moulin à Lyon en 1942, il a 22 ans et n'a jamais mis les pieds dans un musée. Le préfet, dessinateur, collectionneur, est lui un passionné. Il choisit galeriste comme couverture. L'art devient alors un sujet de conversation récurrent entre les deux hommes. Daniel Cordier finit par visiter le Prado à Madrid, dont son patron lui a tant parlé. Goya, notamment, est une révélation. Alors en 1946, quand il commence une nouvelle vie, c'est à l'art qu'il la destine.
J'ai acheté une boîte de peinture à l'huile et des petites toiles.
Il le raconte dans l'émission À voix nue en 2013.
Et j'ai commencé à faire de la peinture. Sauf que mon dessin est nul, bien que j'ai fait 8 ans de peinture, je suis incapable de faire de la peinture.
Mais capable de la collectionner. Car pendant ces 8 ans, Daniel Cordier achète beaucoup, 15 toiles de Nicolas de Staël d'un coup, entre autres. En 1956, nouvelle étape, il ouvre une galerie à Paris où il expose un certain Jean Dubuffet, concepteur de l'art brut,
ça, c'est plus tard,
avec le genre de tableau que l'on trouve aujourd'hui dans la galerie Jeanne Bucher-Gégère à Paris. Donc ça, c'est un Dubuffet qui date de
1958.
Devant Emmanuel Gégère, le directeur de la galerie, comme des petits ronds sur une surface brune.
Il y a une espèce de vitalité et d'extraordinaire intensité dans cette œuvre. Personne ne regardait ce travail à l'époque.
Personne.
Personne.
Personne, sauf Daniel Cordier, qui se passionne pour l'étoile folle de Dado ou pour Bernard Réquichot, l'écorché vif. Et ça marche. Très vite, il ouvre une galerie à Francfort, puis à New York.
Il y avait environ 3-4 000 personnes par mois pour voir les expositions, ce qui était énorme à l'époque.
Mais en 64, surprise, l'imprévisible ferme, lassé notamment par le goût sans danger, dit-il, des collectionneurs français.
Et je ne l'ai jamais regretté.
Le boulimique continue néanmoins d'acheter et de léguer en masse. Celui qui, à 22 ans, n'y connaissait rien, donne plus de 1300 œuvres au Musée national d'art moderne.
Voilà, et je vous invite à consulter notre page consacrée donc à l'amour de Daniel Cordier pour l'art sur le site franceculture.fr. Du prix Nobel de la paix au chef de guerre au lendemain de l'expiration de l'ultimatum du gouvernement aux dirigeants de la région rebelle du Tigré, le premier ministre éthiopien a ordonné ce matin l'offensive finale contre les autorités dissidentes. Alors on savait l'opération imminente, reste qu'un assaut massif de l'armée contre la ville de Mekele où siège le gouvernement local qui depuis des mois défie l'autorité d'Addis Abeba et où vivent 1,5 million de personnes laisse désormais craindre le pire, même s'il est encore difficile pour le moment d'en savoir davantage sur l'avancée des combats. Correspondants sur place de notre envoyé spécial Noé Hochet-Baudin.
Pour l'heure, toujours peu d'informations filtrent en provenance du Tigré. Certaines sources font part de combats dans la ville de Woukro, à 40 km au nord de Mekele. Encore une fois, ces informations ne sont pas vérifiables en temps réel car le Tigré est sous blocus militaire mais aussi sous blocus des télécommunications. C'est la raison pour laquelle les sources contactées à Mekele sont encore et toujours silencieuses. Un porte-parole de l'armée l'avait promis, il n'y aura aucune pitié pour reprendre Mekele. Les troupes fédérales peuvent compter sur une supériorité en termes d'artillerie mais aussi d'un appui aérien que le parti tigréen, TPLF, n'a pas. Le parti tigréen qui a encore rappelé hier qu'il se battrait jusqu'à la mort. Alors cet assaut inquiète évidemment la communauté internationale car 1,5 million de personnes sont piégées à Mekele pour l'heure. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'adressait à eux ce matin dans son communiqué, leur demandant de rester chez eux pour éviter de s'exposer au bombardement. Du côté des États-Unis, Jake Sullivan, le futur conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, s'est inquiété des possibles crimes de guerre commis à Mekele.
C'était il y a un peu plus de 4 ans, dans la nuit du 14 au 15 juillet 2016. Un putsch militaire essayait de renverser le président turc Erdogan en vain. Et c'est ainsi que depuis ce coup d'état avorté, les autorités traquent sans relâche tous ceux qu'elles jugent impliqués dans cette tentative de renversement. Ce jeudi même, ce sont près de 500 personnes militaires et civiles qui étaient jugées dans un procès hors norme. 337 d'entre elles ont été condamnées à la prison à perpétuité et 60 autres à diverses peines d'enfermement. Mais surtout, cette procédure ne constitue en réalité que l'un des multiples volets des procès et des purges sans précédent dans l'histoire moderne du pays qui ont suivi ce coup d'État. C'est une correspondance à Istanbul signée Anne Handlauer.
Le bilan de bientôt 4 ans et demi d'après putsch en Turquie, c'est d'abord une longue série de procès qui ont presque tous abouti à un verdict de première instance. Seuls 10 des 289 procès ouverts dans la foulée du coup d'État manqué attendent encore un jugement, dont celui de ce jeudi. À ce jour, plus de 4000 accusés, des militaires pour la plupart, ont reçu une peine de prison, une peine à perpétuité pour plus de 2500 d'entre eux. Le suspect numéro un de toutes ces affaires, le prédicateur musulman Fethullah Gulen, accusé d'avoir ordonné à ses fidèles dans l'armée de passer à l'acte le 15 juillet 2016, vit toujours aux États-Unis qui refusent de l'extrader. Depuis le putsch avorté, 283 000 personnes ont été arrêtées en Turquie pour appartenance présumée à la communauté de ce prédicateur. 95 000 d'entre elles ont été incarcérées et 26 000 le sont toujours. Chaque semaine, la police annonce par ailleurs de nouvelles gardes à vue. Les autorités turques se sont aussi lancées dès le lendemain du coup d'État manqué dans une purge inédite de la fonction publique. Au sein de l'armée, bien sûr, avec plus de 20 500 militaires démis de leurs fonctions depuis 2016, mais aussi dans les rangs de la police et de la gendarmerie, 36 000 fonctionnaires, ou encore à l'université où près de 6 000 enseignants ont été limogés. En tout, les purges ont concerné plus de 133 000 Turcs. Seuls 12 000 d'entre eux ont vu leurs sanctions annulées.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi encore couvert et faiblement pluvieux de la Bretagne vers la pointe du Cotentin jusqu'aux Flandres maritimes. Des pluies arroseront également les plaines du Roussillon, du Languedoc jusqu'aux Cévennes. Partout ailleurs, le soleil devrait s'imposer. Quant aux températures, elles afficheront entre 10 et 17 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Thomas Larabi pour le prochain journal de la rédaction.
Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Aérons les pièces plusieurs fois par jour. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci était un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
12h56 sur France Culture, l'heure de vous retrouver, Olivia Gesbert, pour la grande table des idées.
Merci beaucoup Thomas Cluzel, on est ensemble jusqu'à 13h30. Avant de retrouver, comme un jeudi sur deux, le rendez-vous de la médiatrice Emmanuelle Davier avec aujourd'hui la directrice de France Culture, Sandrine Trainer. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, les combats de Gisèle Halimi comptent-ils encore Qu'est-ce que cette femme, cette grande avocate a encore à nous transmettre aujourd'hui? Pour en parler, notre invité est grand reporter au Monde, prix Albert Londres, dont elle a ensuite présidé le jury de ce prix pendant 10 ans. Aujourd'hui, toujours membre, mais plus présidente, Annick Cogent est avec nous pour son livre paru chez Grasset, Une farouche liberté, un livre entretien avec l'avocate féministe Gisèle Halimi, décédée le 28 juillet dernier. Bonjour à vous, Annick Cogent.
Bonjour.
Merci d'être là avec nous pour prendre le relais aussi de ma parole un peu effarouchée, visiblement. Quelle liberté avez-vous envie, vous, Annick Cogent, de défendre en ce moment ?
Oh, il y a beaucoup de libertés que j'ai envie de défendre, mais je dirais évidemment en tant que journaliste, puisqu'il y a plein de débats en ce moment et que beaucoup d'émotions, de manifestations et de cris indignés, j'ai envie de défendre la liberté d'expression, la liberté de penser. Voilà. Non pas que je crois qu'elle soit à ce point en grand danger. Danger de mort, sûrement pas. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a des signaux qui sont inquiétants et qui méritent qu'on les dénonce, qu'on s'émeuve et qu'on fasse changer les choses. En tout cas, qu'on montre qu'on est vigilant et que dans cette période difficile, angoissante sans doute pour beaucoup de gens, mortifère même, on a subi à différentes reprises, il y a tout ce danger sanitaire, évidemment, qui est évidemment inquiétant pour nous, pour nos proches, etc. La mort rôde, oui, apportée par ce virus. On a subi les attaques terroristes qui sont très traumatisantes et parfaitement inquiétantes. Effectivement, le danger n'est absolument pas levé. Le danger rôde. La France est dans un état d'alerte. Et puis, on voit ce qui se passe à l'étranger. Enfin bon, à la fois les guerres, les prises d'otages, la situation en Amérique qui a souvent indiqué un petit peu en avance ce que nous pourrions subir à notre être notre tour. Et cette confiscation, en tout cas cette volonté de confiscation du pouvoir par Donald Trump, etc. Enfin, on voit que la démocratie qui paraissait si évidente, il y avait un exemple quand même devant nous, qui était l'Amérique, là aussi vacille d'une certaine façon. Oui, tout ça nous met dans un climat qui doit nous alerter. Et puis voilà que coup sur coup, il y a des projets de loi, discussions, Assemblée nationale, je ne vais pas vous refaire le coup de l'article 24 dont on a tellement parlé dans tous les journaux, mais tout de même, volonté de, non pas de museler, mais on va dire d'encadrer davantage la presse ou les différents médias, sous prétexte de protéger les policiers, on peut le comprendre. Mais en tout cas, il y a un faisceau d'initiatives et de discours malheureux, je veux dire maladroits, on pourrait utiliser des termes plus forts, qui sont désolants. Voilà. Alors j'ai envie, oui, de défendre cette liberté d'expression pour le principe, parce que c'est aussi mon métier. Et puis liberté de penser, voilà. Et c'est, au fond, ça nous ramène à Gisèle Halimi, la farouche liberté. Mais c'est vrai que c'est ça qui la caractérisait.
Ouais. Elle pense libre. C'est parce que justement, dans vos, elle parle aussi beaucoup, et on retrouve dans ce livre que vous avez pensé et coécrit ensemble cette idée des droits qui ne sont jamais totalement acquis ou conquis. Il faut toujours se méfier de ces conquêtes. Ça peut être détricoté à un moment.
Surtout les droits des femmes.
Oui.
Ils sont toujours les premiers attaqués dans les situations de crise, quelles qu'elles soient, dans les catastrophes naturelles, dans les situations de guerre, dans les situations de grande tension. Oui, c'est toujours les droits des femmes qu'on remet en cause.
Alors, on a le sentiment en ce moment d'être un peu dans ce moment de flux et reflux, d'aller-retour.
Oui.
Dans vos colonnes, dans celles du Monde, c'est l'avocat Patrice Spinozzi qui s'est exprimé, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Et lui, il dénonce une accumulation de ces mesures sécuritaires. Il dit, avec toutes ces lois sécuritaires, nous construisons les outils de notre asservissement de demain. Dans quel état, Annick Cogent, pensez-vous qu'on va retrouver nos libertés à la sortie de cette crise sanitaire?
J'espère qu'on aura sans doute, j'espère qu'on aura envie de les défendre, de les assurer, d'en profiter pleinement.
Parce que là, on est en train de s'habituer à ne plus aller manifester, on est en train de s'habituer à sortir avec une attestation, on est en train de s'habituer à demander la permission à peu près pour tout.
On a renoncé à beaucoup de choses et on a été très docile en général. Et heureusement d'ailleurs, parce que oui, le danger est grand, bien sûr, mais on a consenti à un certain nombre de privations de liberté pour mieux les utiliser, j'espère, après. Voilà. Je n'arrive pas à être très inquiète. Alors, c'est mon tempérament, je suis plutôt une optimiste de nature, mais j'ai au contraire l'impression que sortie de ce tunnel, et même si on conserve en tête ce qui nous est arrivé, et donc sans doute on aura appris quelques précautions sanitaires qui nous seront utiles pour l'avenir. En revanche, le droit de nous rassembler, le droit de manifester, le droit de nous exprimer, le droit de vivre pleinement toutes nos libertés, d'aller et venir, etc., je pense qu'on va au contraire les saisir avec peut-être encore plus de force. Et les maladresses récentes du gouvernement, je crois que ne vont pas assoupir nos concitoyens. Au contraire, j'ai l'impression qu'on aura davantage envie de les revendiquer. J'espère pas avec violence, parce que c'est une vraie préoccupation et que ce serait dommageable. Je suis vraiment toujours inquiète des violences de part et d'autre, parce que j'ai aussi couvert des manifestations qui étaient une brutalité de part et d'autre, je dirais. Je trouve ça toujours terrifiant, il faut le dire aussi. Je n'arrive pas à comprendre ça. Mais je crois que ces débats actuels nous donneront, j'espère, l'envie. Et là, pour le coup, la culture, les différents acteurs de la culture seront nécessaires pour nous questionner sur ce que nous avons vécu et pour, non pas nous agiter, mais en tout cas nous donner envie de remettre en question et clamer, oui,